Ça y est, maintenant je suis plus à l'aise. Merci Marc. Donc au niveau de la présentation, donc au niveau du sommaire, donc les 5 points donc que vous rappelez Marc Donis, le projet du parc naturel régional des Préalpes d'Azur, ça sera le premier point. Nous allons ensuite aborder qu'est-ce qu'un parc naturel régional. Le troisième point, rappel des critères nationaux d'éligibilité des parcs naturels régionaux. Ensuite, on va faire une pause, partir sur peut-être un débat pour aborder les deux derniers points, donc les principaux enjeux pour le territoire et les suites et démarches et le calendrier qui nous attend. Alors, je voudrais juste resituer la réunion de ce soir qui fait vraiment partie d'un processus. Donc, il y a déjà eu une première concertation au niveau des socioprofessionnels. Donc là, nous sommes dans la démarche cantonale au niveau de la population, des réunions d'information concernant la population, et nous allons ressortir de cette réunion donc, différentes informations qu'on va pouvoir recueillir pour alimenter cette charte et aboutir un peu plus tard sur une réunion le 13 mars. Donc on verra un peu plus loin. Donc le projet a été initié dès 1992. Il regroupe 49 communes dans le département des Alpes-Maritimes. Il comprend une démarche de création, des étapes de concertation des acteurs, donc élus, socioprofessionnels, habitants, c'est ce que nous sommes en train de faire ici ce soir, pour aboutir à la concertation d'un projet de territoire partagé et matérialisé au sein de la charte. Le projet du parc naturel régional des Préalpes d'Azur, donc c'est une démarche intégrant l'information du grand public sur le projet du parc naturel régional. Il y a déjà eu une première réunion le 6 septembre 2003 qui a regroupé 300 habitants. Ensuite, une réunion le 14 février 2004 avec 260 personnes qui ont assisté à la présentation d'un pré-diagnostic d'études de faisabilité. Donc, ce diagnostic a été fait en 2004. Le 15 mai 2004, restitution de l'étude de faisabilité. Ensuite, il y a eu une démarche de sensibilisation des élus à la culture du parc naturel régional, hein, parce que bon, les élus découvraient ce qu'était un parc. Donc, ils sont allés en voyage d'études donc, au Languedoc, où ils ont rencontré les responsables des parcs du Queyras, des réunions d'information, et ont récupéré énormément d'informations pour pouvoir continuer leur travail. Donc, il y a eu un travail de mobilisation des acteurs du territoire, avec la formation d'ateliers en termes de ressources, d'identité de projet, des voyages d'études aussi des agriculteurs des cantons de Saint-Auban et de Courcecoule dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, et la création de l'association des agriculteurs du parc naturel régional des Préalpes d'Azur, et diverses réunions d'information et de débats qui se sont déroulées. Les prochaines étapes de 2009. Donc aujourd'hui, le syndicat mixte est dans sa phase d'élaboration de la charte. Donc là, sur le premier trimestre 2009, donc 8 réunions cantonales ont été organisées. Donc nous sommes la 7e, la 8e c'est à Gilette, je crois, demain. Et nous allons ensuite, de ces réunions, c'est ce que je vous disais au préalable, aboutir à un forum territorial le 13 mars 2009 au Palais des Congrès de Grasse. Donc c'est une réunion publique, c'est une réunion à laquelle vous allez être conviés. Et dans l'après-midi, les premières commissions thématiques, 4 commissions, vont se mettre en route. Hein. Vous allez pouvoir participer, vous, directement à ces commissions. Et une deuxième participation aux commissions thématiques sera faite le 27 mars 2009. Pour aboutir, nous l'espérons, fin 2009, à un avis intermédiaire du dépôt du projet de la charte. Voilà, donc dans ce processus, la réunion du 13 mars est une réunion très importante, justement, ça vous permet de vous impliquer, pour ceux qui le souhaitent, dans l'élaboration de la charte, à travers des commissions et des sous-commissions, on le verra un peu plus tard. Qu'est-ce qu'un parc naturel régional? Alors, 5 missions principales pour un parc naturel régional. La première mission, protéger le patrimoine à travers une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages. Contribuer à l'aménagement du territoire, donc valorisation des restants, archéologie, patrimoine, bâti, etc. contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie, assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public, et réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités et contribuer à des programmes de recherche. Donc on voit bien qu'on associe protection de patrimoine avec développement économique, social et culturel. C'est très important, c'est ce qui différencie des autres parcs, c'est que ce n'est pas un parc, on ne met pas sous cloche, ce n'est pas un parc national, c'est un parc naturel, on ne met pas sous cloche pour protéger. Ces deux exigences, on va essayer d'équilibrer, qui sont la protection du patrimoine et le développement. La charte d'un parc naturel régional implique, est-ce qu'elle implique des contraintes, hein? C'est la première chose, la première question qu'on se pose généralement. Donc la charte se situe entre le contractuel et le réglementaire. Donc il n'y a pas de pouvoir réglementaire du parc. Mais il y a trois petits points quand même importants. Elle doit être compatible avec des documents d'urbanisme, avec la charte, hein, la révision des plans locaux d'urbanisme au besoin, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, donc doivent faire part de la charte du parc naturel régional, la réglementation de la publicité en zone d'agglomération, donc les zones de publicité restreintes, donc ça c'est quelque chose qu'on doit mettre en place hein, au niveau d'un parc naturel régional, et la définition des voies ouvertes à la circulation des véhicules motorisés. Ensuite, tout le reste, ça vient de nous. C'est nous qui le décidons, c'est nous qui le mettons dans la charte du parc naturel régional. Comment est composé le syndicat mixte du parc naturel régional des Préalpes d'Azur? Donc, il y a une adhésion de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une adhésion du Conseil général des Alpes-Maritimes, une adhésion des communes et une adhésion des communautés de communes et communautés d'agglomération, bien sûr concernées par le périmètre du parc naturel régional. Et comment est financé le parc naturel régional? Ça nous intéresse. C'est une participation statutaire des membres au fonctionnement du parc. Donc vous avez 50% du budget qui vient du conseil régional PACA, 35% du budget du conseil général des Alpes-Maritimes, 5% du budget des EPCI qui font partie du parc. Les 47, ensuite les communes, hein, 47 communes adhèrent sur 49, qui représentent 10% du budget. Et les communes en cours d'adhésion, hein, c'est Créolières et Le Bar-sur-Mer. Ensuite, on peut avoir d'autres financements qui sont des actions opérationnelles, des programmes bien particuliers, donc avoir des aides de l'Europe, de l'État, des régions, par rapport à des missions bien particulières.
Pardon, juste EPCI, établissement public de coopération intercommunale, ce sont les communautés de communes.
Et les intercommunalités.
Voilà, tout ce qui est
communauté d'agglomération.
Aglo, sauf. Canca, communauté urbaine de Nice, mais même à l'époque, communauté d'agglomération à l'époque, qui n'avait pas adhéré, mais les communes qui y sont, elles, avaient adhéré. Voilà.
Voilà, petite précision, merci Marc.
Je t'en prie.
De quelles ressources humaines donc, dispose un parc naturel régional? Donc une équipe technique pluridisciplinaire. L'augmentation du personnel au niveau du parc se fait en fonction des projets hein, tout au long des années, donc ça peut fluctuer. Et possibilité de personnel partagé avec des partenaires consulaires, agglomérations. Ben, sur certains projets, on peut avoir du personnel, ben, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération qui peuvent nous aider dans des élaborations, des aides au niveau de l'élaboration du PLU ou autre, hein, par exemple. Quels sont les effets de la création d'un parc naturel régional? Donc ça, c'est ça qui intéresse aussi. En matière de développement urbain, nous allons voir, en matière agricole et en matière de développement économique. En ce qui concerne le développement urbain, donc que peut apporter le parc naturel régional? Il peut apporter un appui technique aux communes dans l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme, donc les schémas de cohérence territoriale SCOT, plan local d'urbanisme PLU, carte cantonale, appui au montage de projets d'urbanisme opérationnel, conseil architectural sur les opérations de restauration, de réhabilitation, action de requalification des villages, centres-bourgs, zones d'activité, soutien à des démarches qualitatives sur le logement aidé. Donc, très directement, ce sont des techniciens embauchés par le parc qui vont pouvoir aider les communes sur, par exemple, la mise en place d'un rond-point, ben, les aider sur l'étude paysagère, etc. Donc, c'est vraiment un soutien important pour des communes qui ne peuvent pas se permettre d'avoir ce type de techniciens sur place. Ensuite, en matière agricole. Donc, concertation avec les organisations professionnelles agricoles sur l'évolution de pratiques culturales en faveur de l'environnement, l'eau, biodiversité, les paysages, la préservation du foncier agricole dans les documents d'urbanisme des communes, études sur le foncier agricole stratégique, valeurs agronomiques, équilibre à préserver, aussi l'appui à la concertation des bâtiments agricoles, la filière bois, l'intégration paysagère, les requalifications des abords, etc., ainsi que les ça peut être aussi un laboratoire pour l'expérimentation, pour des centres de compostage des déchets, verre, fumier, etc. Relais territorial des dispositifs de contractualisation, Natura 2000, mesures agro-environnementales et vecteur de promotion des produits de terroir à travers la marque Parc. Je crois que c'est ça le plus important. Donc en fait, tout ça, ce sont des exemples de ce que peut être, de ce que peut apporter les effets d'un parc naturel régional. Mais l'effet important pour les agriculteurs aussi, c'est qu'à la fin, c'est d'avoir de leurs produits une labellisation qui va leur permettre d'être reconnus sur un marché et peut-être aussi de raccourcir la filière, je veux dire, producteur-consommateur en créant des liens particuliers entre les agriculteurs du parc et les consommateurs qui sont très nombreux sur le littoral. C'est un exemple, hein. Ensuite, si j'y arrive, voilà, en matière de les effets en matière de développement économique, donc des outils de valorisation de savoir-faire traditionnel, outils d'animation, coordination des opérateurs touristiques autour de la conception et la valorisation d'une offre touristique de qualité, puis de sa sensibilisation, donc là, toujours pareil, hein, avoir un label d'accueil du parc sur le territoire, des gîtes pandas, pour ceux qui connaissent, ou des hôtels au naturel. Donc on peut imaginer d'avoir des chambres d'hôtes, des gîtes qui s'orientent sur une labellisation parc. Ça peut être aussi un stimulateur de recherche de la qualité environnementale, donc avec diagnostic d'entreprise, économie d'énergie, un outil pour l'aménagement du territoire, donc pour développer la DSL, au débit, pour alimenter, aider au télétravail pour l'ensemble du territoire, aussi apporter peut-être, faire rentrer les véhicules propres. Il peut y avoir un autre effet aussi qui est la répartition équilibrée sur le territoire de plusieurs maisons du parc, nécessaire à l'information du public, la population et du touriste. Donc ça c'est très ça c'est les effets, mais c'est aussi pour nous la possibilité de bien canaliser les différents, j'allais dire les différents tourismes. C'est vrai qu'il y a du tourisme différent, on a du tourisme, de proximité, qu'il faut qu'on canalise, du tourisme sportif hein, dans certains territoires, et du tourisme de qualité, du tourisme qu'on souhaiterait garder dans notre parc, qui serait là pour vraiment visiter notre territoire. Voilà. Donc, les rappels des critères nationaux d'éligibilité des parcs naturels régionaux, parce que là, on est dans une démarche, mais le parc n'est pas encore créé. Il faut être éligible. Donc, on a déjà répondu à cette démarche sur les éligibilité. Donc, comment pouvons-nous devenir éligibles? Donc, il faut que ça soit un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel, paysager et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement, alors ça c'est très important, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. Donc, on sait très bien qu'on est un des départements les plus riches de France en termes de biodiversité, donc on répond à ce critère. Ensuite, un autre critère qui est la qualité et le caractère du patrimoine, une entité remarquable pour la région et comportant un intérêt reconnu au niveau national européen. Donc on sait que sur le territoire du parc naturel régional par rapport à l'étude de diagnostic, alors il y en a beaucoup plus, hein, mais là on a noté 66 espèces animales inscrites aux directives européennes oiseaux et habitats, 24 espèces végétales protégées au plan national, donc je sais, hein, Sylvie Raffin, elle a dit qu'il y avait beaucoup plus déjà d'espèces animales inscrites aux directives européennes. Donc on rentre dans ces critères d'éligibilité. Voilà, donc là on a déjà abordé la première étape. Je voulais juste présenter, je ne vais pas le faire à la fin comme ça vous permet d'y réfléchir aussi. Donc il y a une association des Amis du Parc qui s'est créée. Donc le président Thibault Copin est ici présent. Donc on vous verrez à la fin, vous aurez toutes les coordonnées, site internet. Il a fait de l'affichage sauvage sur les... Non, il a fait de l'affichage justement pour que vous puissiez aller sur le site qui est très bien fait et qui vous permet justement de suivre toutes les étapes de notre travail. Voilà. C'est à vous.